aujourd'hui dans la Fabrique du Centenaire. Deuxième temps de notre cycle sur les poilus d'outre-mer avec Arnaud Léonard, enseignant au lycée français de Tananarive, la Grande Guerre et Madagascar.
Les Germains,
soldats,
nous ont envahis
pour la patrie
de 20 fois.
Et nos enfants, en avant !
Dimanche 9 août 1914. S'interdire de penser à ce qu'on aime, de peur de sentir vaciller son courage.
La Fabrique du Centenaire.
Un peu plus de 4000 soldats de Madagascar et de ses dépendances, l'archipel des Comores, périssent pour la France dans le premier conflit mondial. On estime que 40 à 40 000 ont été recrutés et une grande partie d'entre eux envoyés en Europe et en Méditerranée. Ces Malgaches ont été relativement peu étudiés, surtout à Madagascar. À l'époque, Madagascar est une colonie française depuis 1896. Les archives coloniales sont regroupées en France. Et lorsqu'il s'agit de la Première Guerre mondiale, ce sont des archives qui sont soumises à restrictions, très souvent, en tout cas pour les archives nominatives. Ces soldats ne figurent par exemple sur aucun des monuments aux morts. Leur nom n'existe pas sur ces monuments. On trouve uniquement le nom des grandes batailles qu'a livré le 12e bataillon de tirailleurs malgaches. Les moments clés de la bataille du Chemin des Dames en mai 1917, de la bataille de la Marne, la seconde bataille de la Marne, donc avec des noms comme Raucourt ou comme Daumier, ce sont ces noms qui figurent sur les monuments aux morts et jamais les listes nominatives de tirailleurs ou bien même de soldats nés français dans la colonie.
Et alors, comment se passe la mobilisation à Madagascar ?
L'engagement officiellement est toujours volontaire, il n'y a aucune conscription obligatoire pour les Malgaches. Lorsque la guerre éclate, seuls les Français donc, quittent la colonie. Le départ des premiers Malgaches se fait en octobre 1915, c'est donc assez tardif. C'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de colonies, notamment pour cette vision raciale chère à Gallieni et aux hommes qui ont pacifié, comme on disait à l'époque, les colonies. C'est-à-dire qu'il y avait des races plus ou moins guerrières par nature, et les Malgaches n'en faisaient pas vraiment partie. Et ensuite, on craint que faire partir des troupes peut provoquer des agitations dans la colonie elle-même.
Et on met combien de temps pour aller de Madagascar au continent européen à l'époque?
25 à 35 jours en bateau. La particularité de ce voyage et sa difficulté, qui va être croissante d'ailleurs, c'est qu'on réquisitionne rapidement les bateaux des messageries maritimes. Donc on va voir s'entasser sur l'entrepont de ces bateaux postaux jusqu'à un ou deux milliers de tirailleurs qui disposent donc de 2 à 3 mètres cubes, c'est les calculs de l'époque, pour cette traversée. Il faisait quelques escales sur la côte africaine avant d'arriver à Port Saïd et soit le front oriental, donc Salonique notamment, soit débarquement à Marseille avant d'être orienté vers les camps de Fréjus-Saint-Raphaël. Ils y restent peu parce que l'état-major considère qu'ils ont moins besoin d'acclimatation et d'hivernage que les autres troupes coloniales, notamment ce qu'on appelle globalement du terme générique de tirailleurs, c'est des tirailleurs sénégalais. On a beaucoup d'images de Malgaches qui travaillent à la construction de routes sur le front ou près du front, dans la neige. Ce qui permet d'expliquer que la plupart meurent de maladies, 80%, et de maladies notamment contractées lors de ces travaux pénibles au front. Donc très peu de tués à l'ennemi et très peu de blessés. Lorsqu'on compare les chiffres avec la France, en France, les malades représentent 12% des morts pour la France. C'est évidemment une différence énorme.
Et alors, quelle est la réaction des Malgaches au moment où on leur demande, on les appelle à participer à cette guerre?
Les premières réactions en octobre 1915 sont globalement positives. On espère qu'en se battant pour la France, on montre que sa patrie mérite d'être traitée avec respect. Une tradition d'honneur militaire aussi, qui n'est pas négligée. Beaucoup d'hommes ont l'habitude de servir par les armes. Et enfin et surtout, un intéressement matériel. La prime d'engagement pour justement les unités combattantes est de 200 francs. 200 francs, il faut savoir qu'à l'époque, le salaire mensuel d'un fonctionnaire à Tananarive est d'environ 30 à 40 francs. Donc l'essentiel du recrutement des Malgaches est d'abord un recrutement d'agriculteurs, de riziculteurs pauvres qui espèrent faire vivre leur famille par des délégations de soldats. Ensuite, les choses vont se compliquer et le nombre de recrues volontaires va diminuer, va aller en diminuant. On assiste à des stratégies d'évitement, des désertions lors des déplacements, des mutilations volontaires par l'absorption de substances notamment qui rendent malades. Donc la stratégie qui va être mise en place par le gouverneur de Madagascar à cette époque, Garbit, et on va retrouver ces stratégies dans la plupart des colonies, hein. C'est d'abord s'appuyer sur les élites locales en leur faisant des promesses d'accès à plus de pouvoir et surtout en leur faisant des propositions numéraires, hein, puisque les primes de recrutement correspondent à 2 francs par engagé. Donc 20 engagés, on double le salaire d'un fonctionnaire. Hein. Et en voie de commission mobile, c'est-à-dire qui se déplace dans le territoire pour aller recruter, et plus seulement donc recrutement dans les grandes villes. Et ce système va très bien fonctionner, puisque la moitié des tirailleurs environ est recrutée entre octobre 1916 et février 1917 par ces méthodes donc d'engagement contraint, en tout cas avec un caractère volontaire peu marqué.